en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Nous sommes en 1952, le soir de Noël, à l'hôpital Necker. Un jeune charpentier, Marius Renard, quelques jours auparavant, est tombé d'un échafaudage et s'est rompu le rein droit. Malheureusement, de naissance, Marius n'avait pas de rein gauche. Privé de ses deux reins, il est promis à une mort prochaine. C'est alors que Jean Amburger décide avec une hardiesse inouïe de lui transplanter un rein de sa mère. L'opération réussit. La fonction rénale reprend avec excrétion d'urine au bout de quelques minutes. La presse s'en empare, Jean Amburger devient célèbre. Malheureusement, après quelques semaines, la fonction du rein transplanté décroît en raison d'un rejet immunitaire et Marius Renard décède le 27 janvier 1953. Abattu, mais non découragé, Jean Amburger persévère. 6 ans plus tard, il fait une nouvelle greffe entre deux frères, mais cette fois-ci sous couvert d'une irradiation à dose modérée pour empêcher le rejet. La greffe a une durée très importante. Son receveur, Georges Siméon, va survivre 25 ans. C'était la première greffe d'organes réussie au monde, réalisée à quelques jours près en même temps que celle faite par John Merrill à Boston. Quelques années encore, et c'était les greffes à partir de reins de cadavres. Cette page de l'histoire de la médecine n'aurait pas été écrite sans, bien sûr, l'esprit visionnaire de Jean Amburger, mais également sans son grand courage qui lui permit de prendre des risques très importants. On ne saurait entreprendre, en effet, une telle aventure aujourd'hui. On reculerait devant l'idée même de transplanter un organe d'un sujet à l'autre. Que le donneur soit un donneur vivant, avec tous les risques inhérents à l'anesthésie et au prélèvement d'un organe, ou un cadavre, avec toutes les craintes éthiques que cela susciterait. On dénoncerait les risques de l'irradiation. Et pourtant, la transplantation reste aujourd'hui le seul traitement à long terme que l'on est capable de proposer aux malades en insuffisance rénale terminale. Rappelons aussi que dans la foulée de Jean Amburger, Christian Barnard eut le courage de prélever le cœur battant de Louis Vachansky, un malade en insuffisance cardiaque grave, avant de lui greffer un cœur de cadavre. Un courage que n'avait pas eu son maître, Norman Shumway, qui avait été pourtant le premier à mettre au point la technique de la greffe cardiaque chez l'animal. Après ces années glorieuses, notre société s'est progressivement recroquevillée sur le risque zéro, sur la peur. Peut-on et doit-on éliminer tous les risques? Cette ambition est bien sûr irréaliste quand on pense à tous les risques qui nous entourent. Ce n'est pas une épée que nous avons sur notre tête, comme Damoclès, mais des milliers. Réfléchissons en effet un instant à la diversité des risques auxquels notre santé est exposée. Certains sont très graves, touchant la population, mais heureusement suffisamment rares pour ne pas vraiment nous inquiéter. Combien parmi les 8 millions d'habitants de la baie de San Francisco se préoccupent sérieusement du grand tremblement de terre qui les menace, le Big One? D'autres risques sont également graves, mais fréquents et individuels. Nous pensons tous au cancer, aux accidents cardiaques et vasculaires cérébraux. D'autres risques, au contraire, sont bénins, pour ne pas dire dérisoires. Comme l'écrivait Dominique Nogues, le premier homme qui se coupa les cheveux prenait des risques. Rien ne l'assurait qu'il repousserait. Le risque peut toucher la population, être collectif. Il peut, inversement, être individuel. Les risques collectifs sont souvent d'ordre naturel, éventuellement liés à l'utilisation d'un produit chimique ou d'une nouvelle technologie. Les risques individuels sont liés à l'hérédité ou éventuellement un comportement comme la consommation de tabac et d'alcool. Les risques sont parfois attendus, même si on ne peut pas les prévoir dans le temps. D'autres sont inconnus, pour ne pas dire inimaginables. Qui aurait pensé que deux avions pilotés par des terroristes iraient frapper les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001? Quel peut être l'apport de la science dans un tel contexte? Est-ce que la rigueur et la rationalité scientifique peuvent apporter des réponses, voire des solutions? Avant de tenter de répondre à cette question, il convient de bien faire la différence entre le danger et le risque. Le danger est un objet, une substance, un être vivant, une situation susceptible d'entraîner un dommage à une personne ou à un groupe de personnes qui y sont exposées. Pour le scientifique, le risque est une quantité mesurable. C'est la probabilité de survenue d'un dommage après exposition à un danger. Dans le langage courant, il faut reconnaître que l'on confond souvent le danger et le risque, ce dernier n'étant considéré que comme la possibilité de subir un dommage après exposition à un danger. Le danger lui-même est relativement facile à identifier le plus souvent, avec la réserve néanmoins que sa définition dépend étroitement de cette notion d'exposition. Un lion n'est pas dangereux en soi, il ne le devient que lorsqu'on se retrouve face à lui, sauf bien sûr s'il est dans une cage. La science a pour mission d'évaluer la probabilité du risque, ce qui est une question difficile. C'est tout le rôle de l'épidémiologie, une science fondée sur la statistique mathématique, avec recours fréquent à la modélisation mathématique. L'épidémiologie permet de donner des réponses objectives à des questions difficiles. C'est ainsi que l'on a pu montrer le rôle du tabagisme dans l'induction de cancer du poumon, ce qui est établi par tous aujourd'hui, mais qui n'a été démontré par le grand épidémiologiste Richard Doll que dans les années 50. C'est ainsi également que notre confrère Alain-Jacques Valeron a montré à un moment où le monde entier craignait l'extension catastrophique de l'épidémie de maladie de la vache folle et de son équivalent, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, que ce risque était exagéré. L'avenir lui donne raison. La maladie a quasiment disparu chez l'homme aujourd'hui. Mais l'épidémiologie a ses limites. En premier lieu, elle doit s'appuyer sur de très grandes cohortes, de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de millions, de milliers d'individus, ce qui est souvent difficile dans la pratique. En outre, la relation de causalité est souvent difficile à établir dans les corrélations observées. Enfin, il est impossible de dire qu'un risque n'existe pas. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. On peut certes montrer qu'un risque est minime, mais il est impossible de l'exclure de façon formelle sur de simples bases statistiques. Ce point est particulièrement gênant car de nombreuses personnes frappées par la chronologie de deux événements, par exemple la survenue d'une sclérose en plaques chez un sujet ayant été récemment vacciné contre l'hépatite B, n'arrive pas à assimiler cette remarque méthodologique un peu subtile. Certes, on a observé des cas de sclérose en plaques chez les millions de sujets vaccinés contre l'hépatite B. Cela n'était pas étonnant, car chez un aussi grand nombre de sujets, on devait s'attendre à observer des cas de sclérose en plaques, qui sont d'ailleurs observés avec la même fréquence chez les sujets non vaccinés. La science et la médecine peuvent apporter également des armes puissantes pour la gestion du risque. On pense de nouveau immédiatement aux vaccinations. Les vaccins ont permis d'éliminer des maladies graves comme la variole ou la poliomyélite et ont fait diminuer de façon très importante la fréquence des maladies infectieuses de l'enfant. Le dépistage systématique de l'hypertension artérielle, suivi éventuellement d'un traitement simple et efficace, a réduit de façon considérable la fréquence des accidents vasculaires cérébraux les plus graves. Mais là aussi, il y a des limites. La médecine reste impuissante devant un trop grand nombre de maladies. Par exemple, la maladie d'Alzheimer ou les multiples maladies neurologiques dégénératives. La médecine préventive n'en est qu'à ses débuts, malgré quelques brillants succès. Dans le cancer, par exemple, il existe certes des tests de dépistage, mais ils sont souvent positifs trop tardivement et donc inefficaces. La prédiction elle-même pose des problèmes d'éthique inattendus. Il est bien de pouvoir prévoir la survenue d'une maladie, encore faut-il pouvoir proposer un traitement pour la prévenir. Ainsi, on peut prédire la survenue d'une maladie génétique grave, la chorée de Huntington, que l'on observe chez des sujets dont un des parents est atteint par la maladie. Mais il n'existe aucun traitement à proposer. Pourquoi dès lors avertir ces sujets de l'issue malheureuse qui les concerne au risque de perturber leur vie jusqu'à la maladie apparaisse? Les études approfondies ont été réalisées pour savoir ce que ces sujets souhaitaient vraiment faire. Il est intéressant de savoir que beaucoup des enfants de patients atteints de la chorée de Huntington souhaitent subir le test. Certes, avec l'espoir que ce test sera négatif et qu'ils seront soulagés, mais aussi avec la volonté de savoir ce qui va leur arriver, de connaître leur destin si le test est positif. D'autres, au contraire, préfèrent ne pas s'exposer au test. Espérons que la médecine saura trouver un traitement à cette maladie qui ne sera plus dès lors inexorable. Le rationnel peut fréquemment être débordé par l'émotionnel. Paradoxalement, si la mort est notre seule certitude, l'inquiétude qu'elle suscite est en grande partie occultée, heureusement pour beaucoup d'entre nous, par le fait qu'on n'en connaisse ni le moment, ni les modalités de survenue, sauf en cas de maladie grave. Qui, en revanche, ne ressent pas un serrement de cœur en attendant les résultats d'un test de dépistage d'une maladie sévère, au point parfois de refuser de s'exposer à cette épreuve et de refuser l'examen? Une attitude totalement illogique dont les conséquences sont sans commune mesure avec l'apparente tranquillité qu'elle semble procurer. Le problème se pose tout particulièrement pour la détection de la séropositivité pour le virus du sida. Si tous les sujets exposés à ce virus étaient régulièrement dépistés, on pourrait proposer aux sujets exposés et contaminés la possibilité d'un traitement précoce et donc plus efficace qui tout à la fois arrêterait la progression de leur maladie et leur permettrait d'éviter de contaminer leurs partenaires. Des études de modélisation mathématique ont même montré que si ce dépistage, qui est déjà proposé de façon systématique aux femmes enceintes, était généralisé aux sujets exposés, la maladie disparaîtrait en quelques années dans les pays développés. Faut-il pour autant imposer les tests de dépistage? Cela se justifierait pour la santé publique, pour les assurances, mais serait perçu comme une atteinte inacceptable aux libertés individuelles. En fait, un problème central est la différence qu'il convient de faire entre le risque perçu et le risque réel. C'est tout le problème des accidents de la circulation. Nos concitoyens acceptent volontiers les objectifs de la sécurité routière, mais en contournent les règles, avec même parfois la bénédiction des services publics, comme on le voit pour les cyclistes dans les grandes villes. En fait, le malheur n'arrive qu'aux autres, c'est ce que beaucoup d'entre nous pensons, c'est ce que nous avons beaucoup de mal à apprendre, expliquer aux enfants, aux jeunes. Fumer des cigarettes pour un adolescent va l'exposer au risque de cancer du poumon, mais comment le convaincre pour un risque qui va se manifester quelques dizaines d'années plus tard? La situation est plus difficile quand l'irrationalité prend délibérément le pas sur la rationalité. C'est le cas de la peur des vaccins, pour reprendre cet exemple. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les effets secondaires des vaccins sont rarissimes. Ceux qui font l'actualité n'ont aucune base scientifique. Il est grave que des associations se fondant sur ces prétendus effets secondaires militent contre les vaccinations au point de laisser réémerger des épidémies de maladies qui avaient quasiment disparu. Nous avons eu de tristes exemples avec la coqueluche, la rougeole et il y a quelques années encore avec la diphtérie. Les anti-vaccins convaincus sont peu nombreux, 2 à 3 % de la population selon diverses études. Mais ils entraînent une beaucoup plus large fraction du public, incluant des médecins et des pédiatres, qui du coup devient hésitante et refuse de se faire vacciner. Une importante étude récemment publiée par une équipe anglaise a montré que parmi 65 grands pays, la France était celui qui avait le taux le plus élevé de récalcitrants au vaccin. 41% contre 12% pour la moyenne générale. Cette attitude qui relève de l'ignorance, de la crédulité, mais aussi, il faut le dire, de l'obscurantisme, s'applique malheureusement à bien d'autres sujets que je n'aurai pas le temps de traiter maintenant. Elle relève d'une façon assez claire d'une défiance accrue vis-à-vis des experts, même si ceux-ci montrent toutes les garanties de compétences. On leur reproche d'avoir des conflits d'intérêts, une accusation démagogique et le plus souvent sans fondement. On leur reproche de minimiser ou au contraire de dramatiser la situation. Le problème de fond est que les experts s'appuient sur des faits scientifiques alors que leurs opposants se fondent sur leurs convictions personnelles, ce qui rend le dialogue impossible. S'y ajoute le rôle de certains médias en quête de scoops qui contribuent à la désinformation. Tout a été aggravé par l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. L'idée relevait apparemment du bon sens. Mieux vaut prévenir que guérir. Primum non nocere, apprend-on aux étudiants en médecine, cela va de soi. Mais fallait-il pour autant graver le principe de précaution dans la Constitution, c'est qu'il le rend quasiment irréversible. L'article 4, incriminé, faisait strictement allusion à l'environnement, mais très vite, le principe a été étendu à beaucoup d'autres domaines sans lien avec l'environnement, particulièrement dans le champ de la santé. L'application sans discernement du principe de précaution peut avoir des conséquences extrêmement graves, bien pires que les risques qu'il veut éviter. Le principe de précaution, en outre, est un obstacle majeur au progrès scientifique et technique, particulièrement en médecine et en agriculture. La recherche thérapeutique, qui est essentielle en médecine, a perdu beaucoup de terrain en France en raison des tracasseries administratives multiples issues du principe de précaution. Le cas des OGM, des organismes génétiquement modifiés, est également très frappant. Des centaines de millions de sujets dans le monde consomment régulièrement des OGM, sans effet secondaire connu. Si on fait abstraction des éventuels effets des pesticides qui sont souvent donnés en même temps mais indépendamment avec certains OGM. Et pourtant, l'attitude française et plus généralement l'attitude européenne est d'accuser ces OGM de tous les maux, en particulier pour ce qui concerne la santé. On leur reproche de créer des allergies alors qu'aucune allergie n'a été démontrée. Plus récemment, il a été évoqué, à partir d'expériences réalisées chez le rat, des expériences sans aucune valeur statistique, que les OGM pouvaient entraîner des tumeurs. La presse fit une grande publicité à cette publication, qui a été dénoncée par toutes les autorités scientifiques nationales et internationales, avec au premier rang, j'ai le plaisir de le dire, l'Académie des sciences, qui en commun avec 5 autres académies, alerta l'opinion. Et pourtant, les OGM représentent un grand espoir pour notre société à beaucoup de niveaux. Ils peuvent permettre d'améliorer les rendements agricoles, ce qui est essentiel pour les pays déshérités. Ils peuvent également avoir des apports importants pour la santé des populations. C'est ainsi que le riz doré, dans lequel on a introduit par transgénèse de la vitamine A, peut éviter la cécité ou même la mortalité infantile dans les pays d'Asie, la Malaisie en particulier, où la déficience en vitamine A peut induire ces terribles maladies. Au terme de cet exposé, certains d'entre vous pourront s'effrayer des risques qu'ils encourent et auxquels ils ne pensaient pas. D'autres, je l'espère, seront rassurés par ce que la science et la médecine peut ou pourra leur apporter. En tout état de cause, nous vivons au milieu des risques. Certains sont incontournables, d'autres pourraient être évités si nous en avions la volonté. Nous devons tout faire pour promouvoir la recherche sur la prévention du risque et pour lutter contre la désinformation. Une opportunité importante est celle de l'éducation des jeunes, avec la réserve qu'il est parfois difficile, je l'ai dit, de les convaincre de risques s'exprimant à long terme. Peut-être pourrions-nous nous focaliser sur le collège, où les élèves sont en quelque sorte à un âge de grâce, où ils comprennent déjà tout et nous écoutent encore. Il faut leur faire valoir la primauté de la responsabilité sur l'insouciance, du réel sur le virtuel, en espérant que cela les préparera dans leur vie future à la rationalité plutôt qu'à la subjectivité et à l'action plutôt qu'à la précaution. Merci.